séquence pour comprendre et débattre proposée par Paul Masson et Radio PFM. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes formateur d'adultes, militant de l'éducation populaire et membre de Culture et Liberté et d'Attaque. Nous vous retrouvons cette semaine pour la quatrième séquence sur la thématique de la Constitution européenne, séquence qui sera diffusée chaque mardi dans la tranche d'info locale de PFM à 7h30, 12h30 et 18h30. Donc quatrième séquence pour inviter à la discussion autour du prochain référendum au cours duquel les Français, mais aussi une partie des Européens, 10 pays sur 25 qui seront appelés à se prononcer par voie de référendum sur ce traité. Donc je vous rappelle que ces séquences ont pour but d'informer et non d'essayer d'orienter l'auditeur sur tel ou tel choix. Puis je vous rappelle également que vos questions à vous, auditeurs de PFM, sont les bienvenues par téléphone. On prendra le message au 03 21 50 99 99 ou sur le mail pfm@nornet.fr. Voilà pour l'introduction. Paul Masson, lors de la séquence précédente, vous avez présenté de manière générale ce traité de Constitution européenne. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler les conclusions qu'on a tirées lors de la précédente séquence ?
On a essayé de dégager un petit peu quels sont les enjeux autour de ce qui nous est demandé de voter et on a repéré trois types d'enjeux. Premier enjeu, autour d'une Constitution. On va fixer un cadre où l'ensemble des États vont se mettre d'accord sur la manière dont ils vont fonctionner entre eux pour, Giscard disait pour 50 ans, mais pour un temps relativement important. Donc fixer ce cadre, ça, c'est relativement important. Deuxième chose, on a vu que le texte qui nous était demandé de ratifier n'était pas seulement une constitution, mais que dans ce traité, on avait un certain nombre d'articles, même le plus important qui concernait des politiques. Et donc, ratifiant ce traité, on va induire un certain nombre de politiques possibles pour l'Europe. Et selon ces politiques-là, ça va changer à la fois nos législations nationales, la place des entreprises à l'intérieur de l'Europe. Et on a vu qu'autour de ce traité, il y avait un enjeu concernant l'Europe elle-même. Autant au moment où l'Europe s'est construite, l'enjeu c'était de reconstruire l'Europe après-guerre. Cet enjeu-là a changé. Il n'est plus question de reconstruire l'Europe. L'enjeu maintenant, c'est quelle place l'Europe va prendre dans la mondialisation. Et selon les orientations qui seront prises dans ce traité ou pas, on aura une place de l'Europe qui peut être différente dans le monde.
Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le texte via un axe de lecture que vous avez choisi. C'est l'axe territorial où on va donc parler des différentes compétences, les compétences de l'Union européenne, les compétences nationales. Et pour cela, on a besoin de faire un retour en arrière et de revenir sur les objectifs de l'Union.
Les objectifs de l'Union. Je vous ai expliqué les fois précédentes qu'on avait travaillé, que la manière dont s'était fait ce traité, il s'était fait de plusieurs manières, dont toute une partie au niveau du consensus entre les forces politiques. Et les objectifs de l'Union sont déclinés dans l'article 1.3. Et cet article 1.3, on peut dire qu'il a vraiment fait consensus. Et on arrive à avoir tout et son contraire dans le même article. Alors, on va regarder ces objectifs de l'Union. Je vais vous lire l'article 1.3. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. L'Union offre aux citoyens un espace de liberté, de sécurité, de justice, sans frontières intérieures et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe, fondée sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix. Une économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social et à un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations et promeut la justice et la protection sociale, l'égalité entre les hommes et les femmes, la solidarité entre les générations, etc. etc. On a un article très très consensuel qui va permettre à ce que tout le monde s'y retrouve. Pour ce qui est des libéraux, c'est affirmé, la concurrence est libre et non faussée. Une économie de marché hautement compétitive, ça c'est plus pour le courant libéral. Pour ce qui est du courant plus social, on va insister sur qui tend au plein emploi, au progrès social, à un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Combat l'exclusion sociale, la discrimination, c'est-à-dire qu'en fait, cet article-là est vraiment au consensus. Tout le monde peut s'y retrouver. Ce qui sera intéressant de regarder c'est la manière dont ces objectifs sont déclinés dans la mise en œuvre. Ça sera l'objet essentiellement de la troisième partie qu'on aura l'occasion de regarder la fois prochaine.
Ces objectifs, dans ce que vous avez pu lire, c'est quelque chose qui est vague. Est-ce qu'il n'y a pas des objectifs plus concrets ?
Alors, on pourrait dire que, effectivement, si les objectifs de l'Union sont très généreux, sont très vagues et donnent ouverture sur un peu tout, l'article 1.4 est bien plus explicite, puisque lui nous parle de la seule chose qui est garantie par l'Union. Je lis, article 1.4, « La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, sont garanties par l'Union. » Et c'est dans le traité, dans toutes les choses qui nous sont dites, on pourrait dire que, en gros, c'est la seule chose que l'Union garantit. La semaine prochaine, quand on verra les politiques, on va voir comment, pour garantir cette liberté de circulation, les politiques sont mises en œuvre.
Donc aujourd'hui, on va parler des compétences de l'Union européenne. Quelles sont justement les compétences de l'Union européenne, notamment par rapport aux compétences qui relèvent de la nation ?
Alors, dès l'article 1.1 est annoncé, l'Union coordonne les politiques des États. C'est-à-dire que c'est ça qu'on va demander à l'Union, une coordination de l'État. Et elle va avoir des domaines de compétences qui seront exclusives et des domaines de compétences partagées. Alors, pour savoir les compétences de l'Europe, on va regarder les compétences exclusives. Elles sont au nombre de 4. Tout ce qui est la politique monétaire, tout ce qui est la politique commerciale et tout ce qui est l'union douanière. Il y a un quatrième article qui concerne la conservation des ressources biologiques de la mer. Ça, on le retrouve dans les compétences exclusives, le paragraphe 1.12, l'article 1.12 de l'Union. Voilà les compétences de l'Union. C'est-à-dire qu'en fait, les compétences exclusives concernent le commerce et en plus la pêche.
Alors, il n'y a pas grand changement par rapport à la situation actuelle ou...
Non, il n'y a pas de grand changement à la situation actuelle. Cette constitution a plutôt tendance à renforcer la politique actuelle que de remettre en cause ce qui a été fait par l'Europe. La constitution est dans la continuité de l'Europe qu'on nous a fait au cours des 20 dernières années. Alors, voilà pour ce qui est des compétences de l'Union. Ce qui est aussi à mentionner, c'est l'article 1.10. La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union ont primauté sur le droit des États membres. C'est-à-dire qu'une fois que cette Constitution est votée, les lois et lois cadres européennes sont prioritaires sur les lois des nations.
Quelles sont les compétences qui restent de l'ordre national ?
Alors là, c'est l'article 1.9 qui nous dit déjà que toute compétence non attribuée à l'Union dans la Constitution appartient aux États membres. C'est-à-dire que toutes les autres compétences appartiennent aux États membres. Ce qui est intéressant de noter dans le 1.5, c'est que dans l'article 1.5, l'Union respecte l'identité nationale des États, elle respecte les fonctions essentielles de l'État. Et le texte nous indique 3 fonctions, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, c'est l'armée, de maintenir l'ordre public, c'est la police, et de sauvegarder la sécurité intérieure, la justice. C'est-à-dire qu'on va retrouver explicité dans le texte qu'on va demander aux États d'assurer l'ordre.
Alors est-ce qu'il y a un jeu de pouvoir entre l'échelle européenne et l'échelle nationale sur certaines compétences ?
Oui. Alors là, on va avoir 3 niveaux de compétences. Les compétences exclusives, ça suppose les décisions sont prises à l'échelle européenne et les États n'ont pas de possibilité de légiférer dans ces domaines. Ils doivent légiférer. C'est au niveau européen qu'on doit légiférer dans le domaine des compétences exclusives, celles que je viens d'expliquer. Ensuite, on va avoir le domaine des compétences partagées, c'est-à-dire des compétences où l'Europe a son mot à dire et les États ont leur mot à dire. Par exemple, les transports, par exemple, l'énergie, par exemple, certains aspects de la politique sociale, la cohésion économique. Dans ces domaines-là, l'Europe n'a pas l'exclusivité, les États n'ont pas l'exclusivité, il y a des compétences partagées. Et puis, on va avoir un troisième niveau. C'est des actions, ce qu'on appelle les actions d'appui, de coordination ou de complément. C'est des domaines où l'Europe n'a pas compétence à part entière, mais où l'Europe peut intervenir pour soutenir les politiques des États. Dans ce domaine-là, on a par exemple la politique industrielle, la formation professionnelle, protection civile. C'est des domaines où l'Europe n'a pas compétence, mais elle peut donner un appui aux États.
Et donc, dans le même cadre, qu'est-ce qu'on appelle coopération renforcée ?
Alors, le domaine de la coopération renforcée, ça va être certains États qui voudraient aller au-delà de ce qui est prévu à l'unanimité. Il y a un article qui parle de cette coopération renforcée, c'est le 1.44. La décision européenne autorisant la coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble et à condition qu'au moins un tiers des États membres y participent. Ça veut dire un certain nombre d'États décideraient la politique de l'Union ne dit rien concernant la politique sociale et on serait intéressé qu'il y ait une politique sociale européenne. Donc de dire, est-ce qu'on peut, entre États, aller au-delà de ce qui est demandé, puisque l'Europe n'a pas compétence et n'est pas intéressée par la politique sociale, est-ce qu'on peut aller au-delà ? Et cet article dit, oui, dans le cadre de coopération renforcée, on peut aller au-delà. Ce qui est dit en même temps, dans l'article que je viens de vous lire, que pour que ça puisse se faire, il faut que, en dernier ressort, le Conseil, c'est-à-dire l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, valident. Donc, des États peuvent éventuellement se mettre d'accord sur certaines choses, et ça ne pourra se faire que si tous les États sont d'accord pour qu'ils le fassent. C'est-à-dire, cette idée de coopération renforcée ne donne pas la possibilité à un État, à un certain nombre d'États, de mettre en place, à l'intérieur de l'Europe, une politique qui les concernerait qu'eux. Il y a nécessité que, pour qu'ils le fassent, que tous les autres chefs d'État disent « nous, on est d'accord pour que vous fassiez ça entre vous ». Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose qui a été posé par rapport à la politique sociale. On pourra aller au-delà au niveau de la politique sociale. On pourra aller au-delà à condition que tous les États soient d'accord, que certains États y aillent. S'il n'y a pas unanimité au niveau du Conseil, ça ne sera pas possible.
Fin de cette quatrième séquence pour comprendre et débattre sur la thématique de la Constitution européenne. Donc aujourd'hui, on a parlé compétences. On peut peut-être rappeler les différentes compétences, donc les compétences exclusives de l'Europe qui sont ?
Alors, on peut dire que l'Europe a des compétences exclusives dans le domaine de ce qui concerne le marché. Essentiellement, dans ce qui concerne le marché, puisqu'on a les règles en matière de concurrence, les dispositions relatives à l'union douanière, c'est-à-dire le marché avec l'extérieur de l'Europe, la politique commerciale, les échanges à l'intérieur de l'Europe, et les politiques monétaires relatives à l'euro, c'est-à-dire la politique budgétaire. L'Europe fonctionne autour de ça.
Quelles sont les compétences qui restent de l'ordre national ?
Alors, au niveau national, reste l'ensemble des autres compétences restent au niveau de la nation, et l'Europe attire l'attention sur les États doivent assurer l'intégrité territoriale, l'ordre public, la sécurité intérieure, c'est-à-dire l'État, les États doivent faire régner l'ordre pour que le commerce puisse se faire dans de bonnes conditions.
Je rappelle aux auditeurs que leurs questions sont les bienvenues, puisque le but de ces séquences est bien d'ouvrir un débat. Lors d'une prochaine séquence, nous essaierons de répondre à ces questions que vous pouvez poser par téléphone au 03 21 50 99 99. Paul Masson, je vous remercie et puis je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
À la semaine prochaine.